François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po et on vous retrouve régulièrement sur Radio Shalom. Alors il y a 66 ans, jour pour jour, le 23 novembre 1956, une déclaration du ministère égyptien des affaires religieuses élue dans toutes les mosquées et qui va sceller le sort des juifs d'Égypte. Tous les juifs sont des sionistes et des ennemis de l'État. C'est ce qu'affirme cette déclaration qui promet également leur expulsion prochaine.
Tout à fait Pierre, c'était il y a 66 ans, ce jour-là, suite à cette déclaration et dans les 48 heures qui ont suivi, 25 000 juifs égyptiens sont alors forcés de quitter le pays et se réfugieront en grande partie en Israël, en France, ainsi qu'au Brésil, en Argentine et aux États-Unis. Il faut se rappeler cette date, puisque cette communauté juive d'Égypte, antique, on peut se rappeler Philon d'Alexandrie au 1er siècle, qui était un des grands philosophes et penseurs juifs, habitait déjà l'Égypte. Les juifs étaient présents en Égypte avant la conquête arabe. Et parmi ces juifs, il y avait, et je vais avoir une pensée pour eux, mon grand-père Jaime Escorrido et ma grand-mère Soledad Zarmati, qui étaient âgés de 66 et 61 ans. Ils étaient tous les deux nés en Égypte, au Caire. Ils furent de cela. Ils furent spoliés de tous leurs biens et expulsés de leur pays natal, comme tout le reste de ma famille. Ils prendront le bateau et ils iront s'installer non loin de là, à côté de leur fils Shlomo, qui habitait le Mont Carmel en Israël, et c'est là où ils décédèrent. Ils sont depuis enterrés au cimetière de Haïfa, face à la mer Méditerranée. Et je veux avoir une pensée pour tous ces réfugiés juifs égyptiens, parce qu'ils ne demanderont jamais rien à personne. Ni ma mère réfugiée en France, devenue apatride, ni moi non plus née en France. Parce que entre ce 23 novembre 1956 et juin 67, les 75 000 juifs d'Égypte, dont certains égyptiens depuis la nuit des temps, bien avant la conquête arabe, sont chassés de leur pays sans rien. Ma mère, Gina Hellebrun, née Escogido, bien que diplômée de l'Institut d'études cinématographiques supérieures, devra travailler pour survivre pendant 10 ans à l'appel unifié juif de France. Et elle fut chargée avec sa sœur, Grazia Sauté, qui épousera Claude Sauté, qui était un ami de promotion de ma mère, s'occupera de l'accueil et de l'aide aux réfugiés égyptiens en 56, puis de l'accueil et de l'aide aux réfugiés d'Afrique du Nord à la fin des années 50. On pourrait considérer que nous sommes tous des réfugiés égyptiens, mais évidemment, je ne suis pas un réfugié égyptien, car chez les Juifs, comme pour la plupart des peuples, à l'exception notable des Palestiniens, nous ne sommes pas des réfugiés de père en fils sur plusieurs générations. Je suis français, né en France, fier de l'être, comme tous mes cousins israéliens, américains, italiens, dont les familles ont été chassées d'Égypte, qui se considèrent citoyens de leur pays. Et nous, surtout, nous ne demandons rien, ni à l'Égypte, ni à l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, car nous sommes heureux d'avoir trouvé une nouvelle patrie. Nous ne nous retournons pas vers l'arrière et nous avons certains sentiments à l'égard de l'Égypte, nous avons la mémoire de nos familles, mais un jour, du 23 novembre 1956, il y a 66 ans, nous avons été chassés, nous ne l'oublions pas, mais le peuple juif, comme toujours, continuera à construire et à vivre. Am Israël Chai.
Chaque année, François Hellebrun, le prix de l'amitié judéo-chrétienne honore une personnalité particulièrement impliquée dans le dialogue entre juifs et chrétiens. Lancé en 1988, cette année, l'année 2022, eh bien ce prix a été remis à Chaim Korsia, grand rabbin de France, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée lundi dernier à l'Institut de France à Paris.
Tout à fait, c'était une très belle cérémonie auquel j'ai assisté. J'ai assisté doublement, d'ailleurs pour la première raison, c'est que j'aime beaucoup Chaim Korsia. Je trouve que c'est formidable que le prix de l'amitié juive chrétienne reconnaisse sa qualité de dialogue avec les autres religions, toutes les religions chrétiennes, mais au-delà des religions chrétiennes, aussi avec les autres religions, dont l'islam, et j'y reviendrai. Et la deuxième raison, c'est que ce prix a été créé par mon père, Hubert Hellebrun, en 1988, comme vous l'avez rappelé, et mon père était là, et il a été salué d'ailleurs par les différents orateurs comme créateur de ce prix, donc c'était une cérémonie très émouvante. Mais au-delà de ça, pourquoi à l'Institut de France? Parce que Chaim Korsia, comme son prédécesseur, le grand rabbin Jacob Kaplan, est académicien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et donc c'est le président de l'Institut de France, Xavier Darcos, ancien ministre de l'Éducation et grand professeur, qui a inauguré cette séance. Ensuite, Jean-Dominique Durand, qui est le président de l'amitié judéo-chrétienne, a expliqué pourquoi Chaim Korsia méritait de recevoir ce prix cette année-là. Et surtout, ce qui était frappant, c'est surtout ça qui m'a frappé, dans l'assistance, il y avait à côté de Chaim Korsia, Étienne Dumoulin-Beaufort, qui est le président de la Conférence des évêques. Il y avait à côté de lui Shamseddine Hafiz, qui est le recteur de la mosquée de Paris, il y avait le président de la Fédération protestante de France, il y avait l'archevêque de Paris, qui vient d'être nommé, il y avait le pope, le grand pope, qui représente les orthodoxes de France, et il y avait ainsi tous les représentants de toutes les grandes religions présentes en France, et puis aussi, comme moi et beaucoup d'autres, beaucoup de laïcs qui sont attachés à ce prix et à ce dialogue judéo-chrétien qui a été créé par la bulle papale de 1965, Aestra Nostrate, et qui est un texte fondamental et qui montre la vivacité du dialogue judéo-chrétien et même judéo-autres religions, puisque, comme je vous l'ai dit, il y avait le recteur de la mosquée de Paris. Et donc, c'était une lueur d'espoir dans ces nouvelles qui sont parfois assez mauvaises.
Ouais, et sur le plan international, il y a aussi des raisons d'être optimiste. Lesquelles ?
Ben, il y en a plusieurs. Mais d'abord, sur la France, on n'a pas fini sur la France, parce qu'il y avait ce prix d'amitié judéo-chrétienne, mais il y a aussi, lundi, s'est passé autre chose aussi. Il y a eu un voyage, comme souvent, organisé par le mémorial de la Shoah, Auschwitz, avec 300 élèves. Et qui a accompagné ces 300 élèves ? Ben, pour la première fois, qui a accompagné ces 300 élèves, il y avait le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui était déjà allé à Auschwitz avec sa famille, puisque le grand-père de sa femme était un rescapé d'Auschwitz, mais il y est retourné en tant que ministre de l'Éducation, il voulait accompagner des classes et des élèves, et il a souligné l'importance de l'éducation à la Shoah, de l'éducation au génocide, grand génocide du XXe siècle, pour pas que l'horreur se reperpétue. Ça, c'est aussi une lueur d'espoir. Autre lueur d'espoir en France, c'est du côté politique. L'extrême droite, une bonne nouvelle, ils se sont choisis un fasciste identitaire radical comme leader. Il s'appelle Jordan Bardella, il présente bien, il est jeune, il a 27 ans, il est sympathique, mais c'est un vrai fasciste identitaire radical, puisqu'il a été pendant très longtemps, et c'est ça qu'il a lancé en politique au Front National, le compagnon de la fille de Frédéric Chatillon, un nazi puissant, ami de longue date de Marine Le Pen, et c'est comme ça qu'il a connu Marine Le Pen. Ça, c'est pour l'extrême droite, une bonne nouvelle, donc ils se radicalisent, ils ont pris un bon fasciste, bon teint, comme au bon temps de la création du Front National. Et puis l'extrême gauche, la bonne nouvelle, c'est que l'extrême gauche se déchire. Je ne sais pas si vous avez vu différentes déclarations, il y a Martinez, qui n'est pourtant pas un gauchiste, qui a dit que Mélenchon était violent et excessif, donc venant de la bourse de Martinez, le patron de la CGT, c'est assez cocasse. Et puis il y a François Ruffin, qui est le grand rival de Mélenchon au sein de la France insoumise, qui s'est déclaré social-démocrate, alors là ça fait bourrir beaucoup de gens, et surtout il a reproché à Mélenchon son appel à la révolution et qu'il fallait plutôt la réforme. Donc si la France insoumise devient réformiste, c'est une bonne chose. Et enfin un dernier point, le gouvernement qui soi-disant aurait dû tomber parce qu'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée, ils gouvernent, ils avancent, et ce gouvernement raisonnable de la raison, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, continue d'avancer, et donc la démocratie continue de fonctionner en France, et c'est une bonne nouvelle. Donc vous m'avez demandé à l'international s'il y avait des lueurs d'espoir.
Exact.
Alors il y en a aussi, c'est ça qui est bien. Alors c'est évidemment des lueurs d'espoir dans des torrents de sang, mais c'est quand même des lueurs d'espoir. La première, c'est que la Russie recule, c'est-à-dire que ce monstre impérialiste barbare, qui n'a jamais cessé d'être barbare et impérialiste de tout temps, qui a voulu avaler tous ses voisins, qui a voulu déstabiliser l'Europe en truquant les élections comme il l'avait fait aux États-Unis, ben la Russie recule. La Russie a perdu, hélas, 100 000 soldats, et du côté ukrainien, apparemment, il y a 100 000 morts, soldats et civils, mais la Russie recule, la Russie a perdu la guerre. La question maintenant, c'est comment terminer cette guerre, mais ils ont clairement perdu la guerre, et la solidarité occidentale et le courage et l'engagement, notamment des Américains et des Anglais, comme toujours, a fait reculer un impérialisme antidémocratique dangereux. La deuxième bonne nouvelle aussi sur le fond des dictatures, c'est que la dictature iranienne tremble. Elle tremble vraiment. Et pour la première fois, il y a eu plusieurs tentatives de déstabilisation du régime, de renversement du régime depuis que cette dictature islamique s'est instaurée dans ce beau pays, si important et si cultivé il y a plus de 40 ans. Ben, la jeunesse fait trembler ce pays. La jeunesse courageuse iranienne est formidable. Et je veux la saluer, les jeunes iraniennes, les jeunes iraniens, les jeunes iraniennes qui enlèvent leur voile. Et je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, des jeunes iraniens qui, dans la rue, arrache les turbans des mollahs, et c'est une révolution pacifique qui est noyée dans le sang. Il y a déjà eu plus de 300 morts, il y a eu 2000 personnes qui sont en prison, qui risquent d'être condamnées à mort, il y a eu des dizaines de milliers de blessés, mais la jeunesse ne recule pas, ça continue, le régime tremble sur ses bases, et on peut espérer peut-être que cette dictature islamique dangereuse pour le monde tombe. Ça, c'était pour les dictatures, mais du côté des démocraties, il y a aussi des bonnes nouvelles. C'est que aux États-Unis, les excités adeptes de Trump et de la violence perpétuelle et ceux de l'isolationnisme ont perdu. Et c'est peut-être les républicains plus modérés qui sont en train de reprendre la main au sein du Parti républicain. Donc ça, c'est une bonne chose pour la démocratie aux États-Unis, mais aussi pour l'avenir du monde. On l'avait vu, si Trump avait été président des États-Unis, avec l'invasion de l'Ukraine, ben, Poutine aurait eu les mains libres. Poutine n'a pas eu les mains libres avec Biden en face, parce que Biden est un démocrate et surtout un interventionniste expérimenté sur la scène mondiale. Autre bonne nouvelle internationale, si vous me le permettez, ben, le président d'extrême droite Bolsonaro au Brésil a perdu une courte tête, mais a perdu. Et c'était quelqu'un quand même qui conduisait notre monde à une catastrophe écologique en Amazonie en acceptant la déforestation de ce poumon de notre planète. Donc c'est une bonne chose qu'il ait perdu. Et enfin, on peut espérer que les démocraties se renforcent dans le monde et que les dictatures, toutes les dictatures, reculent. Et j'espère aussi qu'en Israël, la démocratie, qui a encore montré sa vivacité et son intensité, va accoucher d'un gouvernement qui éloignera les radicaux, les extrémistes, et qui se fera aussi un gouvernement de la raison. Et on peut espérer que Benjamin Netanyahu, avec son expérience, son savoir-faire et sa très grande intelligence, construira un gouvernement plutôt d'union nationale que s'allier à des extrémistes qui font parfois honte à l'esprit qu'on peut avoir et à l'estime qu'on peut avoir des grandes valeurs du judaïsme.
François Heilbronn, professeur associé à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.